Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans l'univers littéraire de Ling Shi. Née en Chine et installée en France depuis plusieurs années, elle écrit en français et elle est l'auteur de plusieurs romans en 15 ans, dont « Été strident »,« Troisième moitié » ou encore « L'épaule du cavalier ». Une écrivaine exigeante, déterminée, mais aussi tout en douceur, comme on peut l'entendre dans cet entretien, qui commence juste après cette lecture, extraite de son nouveau roman intitulé « Gorge des tambours » aux éditions Verdier.
Je quitterai ce monde sans laisser de traces, comme mon mari, comme ma fille, et tous ceux dont nous portons le sang pour tout héritage. Dans 40, 45 ans, tout au plus une goutte de nous sous le soleil. Moi qui, forte de mon unique privilège, avais pris de haut toute ma vie la stérile beauté des fleurs restées sans fruits et les femmes sans enfants. Quant à ma fille, obscure calice, elle n'a pas même la consolation d'avoir fleuri. Le ciel m'a puni de mon orgueil, l'a ôté de ma vie. Et je me retrouve aussi démunie qu'elle, mes sœurs d'infortune. Engendrée ou pas, quelle différence. Avec ou sans descendance, qu'est-ce que ça change? Tous les ruisseaux ne peuvent aboutir à la mer, sinon la terre ne sera plus ferme. Il arrive comme il nous est arrivé que la descendance doive tarir. Qu'est-ce que la mer pour nous autres qui ne l'avons jamais vue et ne la verrons pas? Plus d'un soupçonne qu'elle n'existe pas, ni la miséricorde. Les gueux ne se fient qu'à leurs yeux.
Bonjour Ling Shi.
Bonjour Catherine.
Votre nouveau roman qui vient de paraître aux éditions Verdier sous le titre « Gorge des tambours » se déroule en Chine, essentiellement dans un village où sur trois générations se raconte l'histoire d'hommes et de femmes à partir de leurs témoignages dans le cadre d'une enquête. Ce n'est pas la première fois que la Chine où vous êtes née est au cœur de votre univers littéraire, ni la première fois que vous écrivez en français, ce pays natal où vous ne vivez plus depuis 25 ans, nous y reviendrons. Est-ce que c'est la littérature qui vous permet d'unir en un même lieu votre moi, votre identité?
Oui, je crois. Pour moi, la littérature, c'est en quelque sorte mon ultime salut. Je me débrouille mal dans la vie et je suis assez déçue par ma personne civile. Et la littérature me permet de trouver une forme de consolation. Évidemment, quand notre plume touche le divin à travers les mots et le papier, ça nous donne une joie que rien ne peut remplacer. C'est une joie très exigeante, consubstantielle à la souffrance. Mais aussi la beauté du verbe chez les autres, ça me console aussi.
Et pour reformuler ma question, est-ce que la littérature est le lieu qui permet de réconcilier aussi votre identité chinoise et votre identité française?
Quand j'écris, je ne pense absolument pas au problème de l'identité. Pour moi, je n'ai qu'une seule patrie. Ce sont les mots, ce sont les lettres, c'est la splendeur du verbe. On fait ce qu'on peut, en fait, quand on écrit. On n'a pas vraiment trop le choix. Ce sont les sujets qui nous choisissent. Et on choisit les sujets qui nous inspirent, qui nous donnent une forme de liberté pour être, d'une certaine manière, Dieu de son univers. Et c'est en écrivant, je pense que chacun appréhende le monde à travers son métier. C'est-à-dire, moi, j'ai fini par comprendre que la seule façon juste pour moi d'appréhender le monde est de, non pas de le dominer, mais au moins de le subir un peu moins péniblement, c'est la littérature. Les mots m'ont appris des choses, peut-être que les chaussures pourraient apprendre à un cordonnier. Humblement, en fait, les mots m'ont appris énormément de choses. La liberté d'un écrivain, pour moi, c'est comme la liberté de Dieu, selon ma propre interprétation, enfin ma propre compréhension, c'est d'obéir à une nécessité qui s'impose à nous. C'est pas, pour moi en tout cas, c'est pas l'écrivain qui décide comment on va finir une histoire. Cette histoire s'impose à nous. C'est une excitation extraordinaire qui frise l'expérience mystique, c'est-à-dire qu'on comprend qu'à partir de là, tout ce qu'on a accompli, les morceaux de bravoure, c'est pour mériter cette grâce. Et à un moment donné, on commence à trembler, on sait que quelque chose, parce que je ne suis pas croyante, je suis agnostique, et quelque chose, un divin peut-être immanent à nous, est venu à notre secours. À partir de là, on sait qu'on n'a plus le choix, on doit obéir à cette voix qui vient de l'extérieur. C'est à ce moment-là qu'on se sent vraiment tout puissant et en même temps infiniment dérisoire, parce qu'on sait qu'on n'est rien du tout, on n'est qu'un médium.
Alors pour illustrer tout ce que vous venez de dire, Lingxi, plongeons-nous dans ce nouveau roman, donc Gorge des tambours, pour voir avec vous quelle est l'inspiration, qu'est-ce qui est venu à vous pour que vous écriviez cette histoire.
Il y a très longtemps, il y a 20 ans de cela, je suis rentrée dans ma ville pendant les vacances. Je suis allée voir ma professeure de chinois du lycée et sa maman était là. Je ne sais même plus pourquoi, tout d'un coup, sa maman s'est mise à me raconter l'histoire d'une connaissance. Ça a tenu en peu de mots, mais c'est toute une vie. L'invraisemblable de cette vie, j'en suis bouleversée et je n'ai jamais oublié cette histoire. Et ce n'est qu'un squelette d'histoire, comme chaque fois avec mes romans. Et je lui ai donné une épouse à cette personne. Et l'imagination a fait le reste, ou plus exactement, les mots ont fait le reste. Parce que chaque fois, c'est au fil des mots que me viennent les histoires et les personnages.
Donc là, vous abordez déjà un des thèmes principaux de votre roman, qu'on va garder un peu sous silence parce que c'est une des révélations de ce livre. Donc restons encore un peu sur, entre guillemets, le décor. Par exemple, cette gorge des tambours, elle existe vraiment? C'est un lieu réel en Chine?
Oui et non. C'est-à-dire que sa localisation est concrète et réelle, mais le nom, je l'ai inventé. En fait, le vrai nom du lieu, c'est très beau aussi, mais je lui ai donné un autre nom pour me permettre
plus grande liberté.
Absolument.
Mais ouais. C'est un endroit qui existe en Chine, ouais. Que vous connaissez, qui est assez éloigné d'ailleurs, qui est sur une rivière, un fleuve.
Le grand fleuve, en réalité, c'est le Yangtze. Yangtze, c'est vous qui avez trouvé le nom. En réalité, en chinois, c'est le long fleuve. Je trouve que le grand fleuve, puisque c'est le plus grand fleuve de la Chine, je l'ai appelé le grand fleuve. Mais en tout cas, c'est la gorge qui sépare l'amont de l'aval de ce grand fleuve.
Et qui est en effet très symbolique dans cette histoire où on passe d'un monde à l'autre et on y revient.
Oui.
Parce que ici, c'est l'histoire donc de deux familles, essentiellement. Bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup de personnages. Les Mu et les Wang,
oui.
Dont on entend par alternance la voix de plusieurs des membres respectifs. Ces deux familles qui traversent ce XXe siècle où chacun et chacune, telle une pièce de puzzle, donne sa version des faits qui se sont déroulés là dans ce village et qui ont conduit à la disparition de ce personnage, Mu Er, que recherche un inspecteur. Que vous permet ce récit polyphonique, Lingxi?
Oh, je ne sais pas. Qu'est-ce que je cherche?
Que la vérité n'est pas une, mais multiple.
Oui, c'est une des choses, oui, absolument. C'est absolument un leitmotiv de ce récit, de dire, en fait c'est aussi la tâche de la littérature pour montrer que ce qu'on voit, en fait ce sont toujours ce que, la vie c'est quoi? C'est une réunion tout à fait contingente des circonstances et des comportements des uns des autres. Et en fait la vie nous montre ce que chacun veut montrer. Mais qu'est-ce que je cherchais? Je cherchais, il y a la première émotion d'entendre cette histoire vraisemblable que quelqu'un a vécue. Et après, quand on commence à écrire, on est submergé en fait par tout un tas de choses. C'est ce que je cherche en fait, Je voudrais que le récit me submerge, que le récit dise de lui-même ce qu'il veut exprimer. Et je n'ai pas prémédité, mais à l'arrivée, j'ai constaté que c'est une longue méditation sur l'amour.
Oui.
Et alors que jusqu'ici, j'avais toujours un peu détenu l'amour, peut-être parce que je n'avais pas atteint la maturité, enfin, c'est assez prétentieux, comme si je l'avais atteinte maintenant, mais c'est vrai que j'avais toujours été attirée par l'histoire des enfants et des animaux.
Et, qui sont très présents aussi ici.
Oui, c'est vrai. Et la nature. Et en réalité, c'est bizarre, en fait, peut-être presque, je ne sais pas. Mais à l'arrivée, c'est une longue méditation sur l'amour, sous toutes ses formes. L'amour entre l'homme et une femme, l'amour entre les gens du même sexe, l'amour filial, l'amour inconditionnel d'une mère, ou l'amour inavoué d'une mère qui couve en fait sous la haine, et aussi l'amour d'une langue. Et au-delà de l'amour d'une langue, en particulier l'amour du verbe, parce qu'en réalité, si on regarde dans ce récit qui est traversé par beaucoup de personnages de conditions très modestes, il y en a plusieurs en fait qui collectionnent les mots.
Oui, absolument. C'est un roman social, un roman intime, et où aussi l'histoire géopolitique de la Chine irrigue votre récit, avec des épisodes où on entend la terreur, la censure, la peur, tout ce qui est lié aussi à la révolution culturelle. Qui est-ce qui vous a raconté ces différentes époques où l'individu était noyé dans le collectif Lingxi?
Il y a des récits entendus tout le long de ma vie, mais surtout la documentation. J'ai fait beaucoup de documentation. Mais après, l'inconscient fait son travail. Et finalement, en fait, il y a quelques détails. En fait, tout ce qui concerne la grande histoire, les détails sont véridiques. Et en fait, justement, c'est que mon précédent roman, la troisième moitié, c'est un roman satirique d'une voix très virile qui portait beaucoup plus sur la sphère collective. Mais après ça, je voulais écrire un livre plus intime. Je voulais raconter un drame vraiment privé. Mais à un moment donné, j'ai compris que autant un écrivain européen, américain, quelqu'un qui raconte l'histoire, qui se situe dans un pays, on peut dire normal, mais en réalité, quand on regarde le monde, on comprend que la normalité est une exception. Et quand on a la chance de vivre dans un pays soi-disant normal, on peut situer son histoire n'importe où, n'importe quand. Mais quand on écrit une histoire chinoise, c'est extrêmement difficile, alors que je m'étais juré d'écrire un roman, cette fois un drame vraiment privé. Mais j'ai constaté que si je veux être vraiment honnête, c'est impossible de séparer l'intime de la politique, parce que la pression est telle. Il n'y a pas que la révolution culturelle, même avant le régime communiste. Le poids de l'histoire est si lourd que ça ne peut pas ne pas les façonner les décisions personnelles. Et c'est pour ça qu'en réalité, cette fois, ce sont vraiment des drames intimes. Et on comprend que finalement, la source de tous les maux découle de quelques individus. Mais en même temps, malgré ça, ces drames sont inséparables de l'ensemble de ce pays, de son époque. C'est-à-dire c'est fascinant, mais en même temps, c'est très difficile pour un écrivain d'écrire sur la Chine. Parce que d'une époque à l'autre, on change de monde. Il faut s'adapter. Alors qu'un écrivain qui écrit un roman sur un pays européen pourrait aller d'un seul souffle, sans changer les couleurs de l'époque. Alors qu'en Chine, ce n'est pas possible.
Et c'est d'ailleurs bien parce qu'une loi change en Chine que tout le destin de votre personnage, Mouer, change aussi.
Absolument, oui.
On l'a dit, donc un roman intime, mais aussi inhérent à la géopolitique de la Chine, un roman social, et puis un roman Gorge des tambours sur la condition féminine, sur les filles dont vous dites qu'elles ne pèsent pas lourd dans le chaos du monde, et dont on voit aussi ici en effet que l'une est sacrifiée pour une question familiale, pour une question d'honneur peut-être, et une autre est stigmatisée pour une question d'apparence. La question du genre, voire du transgenre, nous en reparlerons peut-être, est une question qui vous travaille, Lingxi. Avoir le droit d'être femme ou pas dans notre société, dans nos sociétés.
En fait, je n'ai pas réfléchi à cette question, c'est-à-dire que l'histoire est d'elle, que l'histoire, ce squelette d'histoire que la maman de ma professeure m'a raconté est tel que, en réalité, ça se retrouve au centre, au cœur de ce livre. Mais en même temps, j'ai traité ce sujet comme j'ai traité tous les autres, c'est-à-dire avec toutes mes tripes, c'est-à-dire ce ne sont pas mes histoires, mais toutes les émotions, je les ai vécues ou je les ai provoquées vraiment au fond de mes tripes. C'est vrai que la différence entre la Chine et ici, c'est que la Chine communiste prône depuis le début, en fait, l'égalité entre les sexes. Mais comme dit l'entremetteuse du livre, en réalité, ça retourne toujours aux dépens des femmes. Parce que l'égalité des sexes, c'est très bien, parce que toutes les femmes devaient travailler. Mais ça ne les décharge pas forcément des tâches ménagères. Et du coup, en fait, le confinement des femmes chinoises a monté beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il fallait concilier le travail avec les enfants, avec la famille. Et avant, les communistes, c'était beaucoup plus frontal. C'est-à-dire le poids de la femme. La femme, c'était une société vraiment patriarcale. En effet, à cette époque-là, les filles ne pesaient pas lourd.
Mais qu'est-ce que ça veut dire ici que votre personnage... Alors, je ne sais pas jusqu'où vous voulez aller dans la révélation de l'histoire ou pas.
Non, donc, je ne veux pas.
Voilà. Mais néanmoins, on voit bien qu'ici, ce sont les femmes qui sont victimes des apparences qu'elles sont censées renvoyer à la société.
Oui.
Est-ce que ce n'est pas une des raisons pour lesquelles vous avez été touchée par ce sujet, par ce squelette d'histoire, comme vous dites, quand on vous l'a raconté?
Non, parce que ça pourrait être l'inverse aussi, imaginez.
D'accord.
Parce que je ne veux pas révéler la fin de l'histoire, parce que, en fait, je sais que j'écris très lentement. Et du coup, j'ai l'ambition chaque fois que les gens lisent mon livre deux fois. Parce qu'arrivé à la fin de la première lecture, on comprend qu'il faudrait relire le livre et tout est à l'envers. Et en fait, toutes les confessions sont à double entente. Et à la fin, si on relit le livre, on comprend qu'en réalité, tout ce qu'on a compris, c'est à l'envers, c'est à côté. Et du coup, je ne vais pas révéler. Non, ce qui m'a touchée profondément dans cette histoire, c'est ça le transfert de la part d'un écrivain. On ne peut pas dire ce qu'on est. Et on doit faire semblant. Et je pense que beaucoup d'expériences pourraient faire penser à cette expérience-là. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas seulement au genre. C'est beaucoup plus, peut-être plus universel que ça. C'est-à-dire qu'on est obligé par la pression sociale d'être en décalage avec soi-même, de ne jamais pouvoir dire, crier sa vérité et de devoir organiser toute sa vie en fonction de ce sacrifice. Et c'est ça qui m'a profondément touchée dans cette histoire.
Une question très naïve, et j'espère qu'il ne va pas vous choquer. Est-ce que vous auriez pu écrire ce même livre en chinois?
Oh. Je ne sais pas, parce que chaque fois qu'on écrit, c'est toujours un livre différent. Et donc, je ne peux pas dire comme ça. Mais je pense que j'aurais pu écrire des livres que je considère comme des enfants et dont je suis fière.
Parce que la question que je me pose, vous vivez en France depuis plus d'une vingtaine d'années, n'est-ce pas?
Oui.
D'ailleurs, est-ce que c'est un choix libre ou c'est pour ne plus vivre en Chine que vous vivez en France, Lingxi?
Non, ce n'est pas pour ne plus vivre en Chine. C'est un choix qui n'était pas exclusif ni définitif. ce n'était qu'un au revoir, hein. Mais comme dans la vie, souvent on quitte quelqu'un, on se dit au revoir par soi, mais il s'avère souvent que les au revoir deviennent des adieux. Et je ne sais pas si j'aurai le temps, avant le dernier souffle, de revenir à la langue chinoise. C'est mon plus grand déchirement, parce que la langue chinoise, c'était ma plus grande passion. C'est-à-dire que jamais j'avais pensé à délaisser la langue chinoise pour une autre. Ce n'était pas définitif, mais en même temps, plus ça va, plus je me félicite d'avoir fait ce choix, malgré la grande culpabilité envers ma passion première et ma douleur. Je pense que j'ai fait le bon choix, parce qu'écrire, vous voyez, on est déjà assez seul comme ça quand on écrit. Écrire, c'est se vouer à la solitude. Écrire, c'est une ascèse permanente. Et c'est un sacerdoce souvent incompris et parfois raillé. Et c'est une traversée de désert incertaine, souvent sans horizon et parfois sans issue. Et alors, écrire en chinois en France, et même en Chine, c'est aggraver son cas. Parce que je ne sais pas si la France a les meilleurs écrivains du monde, mais je crois que la France a les meilleurs lecteurs du monde. Et souvent sous-estimés d'ailleurs par les écrivains eux-mêmes parfois, et par les professionnels du livre.
Là, vous nous dites beaucoup de choses, Ling Shi. Est-ce que écrire en chinois en Chine, c'est compliqué? Est-ce que j'ai mal compris?
Ce n'est pas compliqué, je ne parle pas de l'aspect politique, loin de là. Je parle du nombre de connaisseurs de ce genre de littérature que je pratique, parce que c'est déjà assez compliqué, même en France, de trouver des connaisseurs de ce genre de littérature que je pratique. Je pense qu'en Chine, même mis à part le ton trop libre, des détails de mon récit, mais avant tout, je pense que même le marché capitaliste n'aurait jamais donné, en fait, aucun écho pour le style, pour l'aspect littéraire.
On y arrive dans un instant à l'aspect littéraire de votre langue, Ling Shi. Et de fait, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'écrire en français? Parce que c'est la langue dans laquelle vous vivez depuis des années. Est-ce que vous étiez écrivaine quand vous viviez encore en Chine ou pas?
Non.
Donc finalement, c'est en France et la langue française qui vous révèle comme écrivaine.
Oui.
Et donc, en effet, parlons de cette langue Ling Shi, parce qu'on a évoqué vos personnages, on a évoqué le cadre, mais on n'a encore rien dit sur ce style, cette langue que vous déployez avec beaucoup d'inventivité, des incises, des digressions, un registre qui peut à la fois être pointu ou trivial. Un de vos personnages dit en effet qu'il collectionne les mots. Est-ce que c'est votre cas, Ling Shi? Est-ce que vous collectionnez les mots? Et est-ce que pour vous, ces mots, ce vocabulaire, cette syntaxe, cette grammaire sont un matériau dans lequel vous plongez vos mains avec délice pour construire quelque chose, une œuvre poétique?
Oui, c'est absolument ça. Je collectionne les mots et je collectionne les émotions. Je pense que ce sont vraiment le plus important pour moi. Et aussi, par exemple, d'un narrateur à l'autre, déjà enfin, d'une époque à l'autre, il faut que je me redocumente, mais d'un personnage à l'autre, c'est-à-dire d'un chapitre à l'autre, il faut que je change de style. Alors, pour me forcer à changer de style, puisque je m'astreins à cette discipline d'avoir plusieurs narrateurs.
Il y en a combien d'ailleurs ici?
8.
Et en fait, 8 principaux.
Oui. Et du coup, il fallait que je change de style d'un narrateur à l'autre. Et du coup, je choisis des livres qui pourraient être proches du style que je visais. Et donc, quand je suis arrivée à la fin d'un chapitre, même si je n'ai pas fini ce livre, je le mets de côté. Je mets de côté et puis c'est comme ça que je procède. Et aussi, c'est aussi par le vocabulaire. Par exemple, pour sculpter le personnage de Namui, le père du personnage principal, qui est un marinier, alors que je ne connaissais rien de la navigation. J'ai dû lire beaucoup de Mark Twain, de Conrad, pour m'imprégner de leur univers.
Et en effet, il y a beaucoup de professions d'ailleurs.
Oui.
Lingère, brodeuse.
L'entremetteuse, cordonnier, Atelier, oui.
Toutes ces professions donc, pour lesquelles vous vous êtes documentée et ensuite pour mieux vous glisser dans la voix
oui.
des narrateurs qui ont différents âges, évidemment selon les époques aussi, et différentes fonctions sociales.
Oui, oui. Et aussi, Marguerite Yourcenar a dit que pour un personnage du peuple, il ne faut pas mettre dans sa bouche des mots de plus de 4 syllabes. Je trouve que ça montre bien que c'est une très grande aristocrate qui ne connaît pas le peuple. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que c'est un préjugé de dire que les gens du peuple ne s'expriment pas d'une façon savante.
Ça a dû être un sacré défi d'écriture, ce livre, Ling Shi.
Oui, mais c'est aussi ça qui... En fait, j'ai une telle exigence envers moi-même que souvent je suis écrasée. Et ce qui fait que j'ai tendance je suis très prompte à l'ennui. Et donc, il faut que je me motive, que je ruse avec moi-même. Et c'est-à-dire, ce n'est pas par jeu ou par parti pris que je me dis que cette fois, je vais choisir cette cajure. Mais j'ai fini par constater que je ne mérite pas mieux. C'est-à-dire que chaque fois, il faut que je me lance un défi comme une cajure pour y arriver, sinon je ne suis pas motivée.
Une montagne à gravir ?
Oui, ou bien... oui, j'espère que c'est ça, déplacer une montagne. Mais parfois, ça aussi, il arrive aussi que... La montagne à gauche d'une souris.
En l'occurrence, tout cet univers que vous créez pour finalement un personnage, un secret.
Oui.
Mais une vie difficile.
Oui.
À laquelle vous rendez hommage.
Oui.
Avec toutes ces voix.
Oui.
Est-ce que vous êtes traduite en chinois, Ling Shi?
Non.
Vous le souhaiteriez?
Puisque c'est une langue que j'aime, ça me ferait mal, en fait, de voir mes livres, pas tels que je les ai conçus, parce que ce sont des livres très difficiles à traduire. C'est-à-dire, puisque j'ai eu le privilège de pouvoir écrire directement en français, j'ai peut-être un peu abusé, c'est-à-dire je conçois mes textes de telle manière qu'il faut que les moyens linguistiques, c'est-à-dire le style même, de ces textes justifie le choix linguistique de telle manière que la traduction sera un déchirement, ce sera très difficile, comme la poésie d'ailleurs. Et j'écris sans aucune arrière-pensée de traduction, même en fait, j'aggrave vraiment mon cas parce que je fais le contraire, c'est-à-dire, malgré tout le talent et le courage d'un traducteur en chinois, ce sera très difficile. Même moi, je pense que je n'aurais pas le courage de le faire. Mais si on me traduit, je ne sais pas, en allemand, je ne peux pas savoir. Et donc, ça ne me touche pas, quel que soit son sort, leur sort. Mais en chinois, je ne peux pas m'empêcher d'y jeter un œil. Je pense que ce sera trop douloureux pour moi.
Donc, si... Les lecteurs et les lectrices de Chine ont envie de vous lire, il vaut mieux qu'ils sachent lire le français.
Ah oui, je crois.
En tout cas, nous qui lisons le français, nous sommes très heureux de pouvoir vous lire directement dans cette langue avant de passer par une traduction. Merci beaucoup, Ling Shi, d'être venue dans l'émission aujourd'hui nous parler de ce nouveau roman « Gorge des tambours » qui est apparu aux éditions Verdier.
Merci à vous.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site RFI.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.